Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Le manifeste de Kasangulu, quelle proposition citoyenne pour refonder la RDC? C'est le thème de l'émission Parole aux auditeurs d'aujourd'hui avec Maître Patient Bachombe Matabishi, président du bloc RDC, organisation porteuse du manifeste. Pour participer à cette émission, chers auditeurs, enregistrez-vous au 081 32 34 883 081 32 34 883 ou écrivez-nous à pa@radiocapi.net ou encore laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook Parole aux auditeurs. À la mise en onde de cette émission, Sylvain Baogueré, le live sur les réseaux sociaux est assuré par Esther Mamboté et David Moussangouna. Nancia Tambo est à la réalisation et au standard sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. À l'animation, Jocelyne Moussa Opondé.
Okapi, Metabendi Yamani.
La République démocratique du Congo est confrontée depuis plusieurs décennies à des crises qui touchent à la fois la sécurité, la gouvernance, les institutions, l'économie et la cohésion sociale. Dans ce contexte, des voix s'élèvent pour proposer des nouvelles pistes de sortie de crise et de refondation de l'État. C'est dans cette dynamique qu'est né le manifeste citoyen, communément appelé Manifeste de Kasangulu. Porté par le bloc RDC, ce document se veut une contribution citoyenne au débat national. Il propose notamment des pistes en matière de gouvernance, de justice, de sécurité, de développement économique, de participation citoyenne et de cohésion nationale. Alors que le débat sur le dialogue national inclusif et les réformes nécessaires pour sortir durablement le pays de ces crises se poursuit, que propose concrètement ce manifeste? Quelle vision porte-t-il pour la RDC et en quoi se distingue-t-il des autres propositions déjà formulées? Par les auditeurs, on parle ce mardi avec Maître Patient Bachombe Matabishi, président du bloc RDC, organisation, je l'ai dit, porteuse du manifeste de Kasangulu. Maître Bachombe, bonjour et bienvenue dans ce studio.
Bonjour Madame Jocelyne, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, au pays et à l'extérieur du pays. C'est un grand honneur et un grand plaisir de participer à cette émission.
Merci, nous sommes très heureux et très ravis de vous recevoir dans ce studio pour l'émission Parole aux auditeurs. Pour commencer, Maître, dites-nous, qu'est-ce que le manifeste citoyen de Kasangulu?
Alors, le manifeste citoyen de Kasangulu, c'est une vision. Une vision des acteurs de la société civile, des forces vives communautaires et des citoyens congolais, je vais dire, qui ont considéré que la crise dans laquelle on est en train de passer, notre pays est en train de traverser une crise d'une gravité historique. Et que aujourd'hui, le pays est en train de se désagréger. Et il y a certaines forces qui proposent des pistes de solutions. Mais nous avons dit en tant que société civile, quel est notre point de vue, quelle est notre vision? Lorsque les gens font des déclarations, lorsque les gens font des critiques, lorsque les gens s'accusent, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité au pouvoir, mais nous les citoyens congolais, quelle est réellement notre vision pour la République démocratique du Congo?
Alors on doit considérer ce manifeste comme une déclaration de principe, un ensemble de propositions ou une véritable feuille de route pour la refondation de la
RDC? Je dois dire très clairement que c'est d'abord un processus qui a commencé par des consultations dans les provinces il y a plus d'une année où les citoyens ont donné leurs avis, leurs points de vue, leur vision des choses et nous avons collecté tous ces avis pour les structurer à travers plusieurs rencontres que nous avons pu organiser, dont la dernière s'est tenue à Kasangulu. C'est pourquoi le manifeste porte le nom de Kasangulu. Et à cet effet, les panélistes ou les membres de cette commission qui étaient chargés d'élaborer la commission pédagogique chargée d'élaboration finalement de ce manifeste ont mis en exergue le fait que le manifeste devait porter, n'est-ce pas, le nom du manifeste de Kasangulu.
Et qui a participé à son élaboration? Vous avez parlé de consultations dans les provinces, mais à Kasangulu, vous étiez réunis. Quels sont les partis qui ont pris part à l'élaboration de ce manifeste?
Alors, pour Kasangulu, ce sont les membres de cette commission technique d'élaboration, n'est-ce pas, technique et pédagogique d'élaboration de ce manifeste. C'est constitué des professeurs, des géostratèges, ceux qui ont fait, n'est-ce pas, des professeurs à l'UNIKIN, qui sont dans la faculté des sciences politiques, et d'autres éminents acteurs de la société civile qui ont participé à Kasangulu. Et donc, de l'analyse, n'est-ce pas, de la crise que nous avons faite, nous nous sommes rendus compte que cette crise n'est pas un accident passager. Ce n'est pas également une fatalité pour notre pays. Nous avons aussi constaté que la crise que nous sommes en train de traverser n'est pas en réalité la conséquence d'un destin maudit, mais c'est une crise qui est le produit d'un système de prédation qui n'a pas commencé aujourd'hui, mais qui a pris son bonhomme de chemin et qui s'est incrusté dans le quotidien congolais, au point même d'affaiblir, n'est-ce pas, de créer un affaiblissement prolongé de l'État, de la souveraineté, n'est-ce pas, de notre pays, qui continue à être disputé et qui provoque aussi une sorte de justice qui est fragilisée, fragmentée. Et quand vous regardez même sur le point, sur le côté économique de notre pays, qui du reste est extraverti, il n'y a pas grand-chose qui est produit au pays. Donc nous importons tout, alors que nous avons tout ici au pays et que nous pouvons produire. Et donc, nous avons dit que nous devons regarder de manière lucide pourquoi dans notre pays, toujours dans le cadre de cette crise, il y a cette impunité qui a gangréné le système, tout le système de notre pays et qui produit tout ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui, au point même d'assister à une rupture profonde, n'est-ce pas, de l'autorité, entre l'autorité publique et les biens communs.
Mais à quelle crise ou à quelle difficulté de la RDC ce manifeste entend-il principalement répondre?
Alors, d'un côté, je viens de parler de la crise, n'est-ce pas, des souverainetés.
Oui.
D'un autre côté, je viens de parler déjà rapidement de la crise de gouvernance. Donc, et quand je parle de la crise de gouvernance, allez-y comprendre, parce que j'ai parlé de la prédation, et c'est tout un système de prédation qui est au pays. Donc, j'ai parlé au premier chef de la crise, n'est-ce pas, de souveraineté. Jusqu'à aujourd'hui, il y a deux provinces de notre pays qui nous sont amputées jusqu'à ce jour. Et il y a des menaces extérieures. Il y a même des Congolais qui ont pris les armes contre notre pays. Il y a même des trahisons. Même dans l'armée, même dans la politique, et des Congolais qui se sont alliés aux pays voisins pour agresser notre propre pays. Et tout ça, c'est quand même une crise que nous avons relevée. Donc nous avons aussi relevé la crise humanitaire. Des familles aujourd'hui peinent à se nourrir, peinent à nouer les deux bouts du mois. Et le Congolais devrait être
que ça
au
soit
centre.
Dans le contexte de guerre ou
que
pas.
Que ce soit dans le contexte de guerre ou même dans les provinces qui ne sont pas concernées par la guerre. Donc, c'est vrai, on voit toute la superstructure qu'on met en place, mais on ne met pas le curseur sur l'homme congolais. C'est-à-dire que même la protection sociale universelle au pays n'est pas respectée, n'est pas mise en branle. Alors, il y a également ce que nous avons appelé la crise de gouvernance, n'est-ce pas? Et je saute la crise de la justice. J'ai parlé de l'impunité. Et remarquez, madame, des gens prennent des armes même contre la nation parce qu'ils savent que à tout moment, ils au travers de ce qu'ils font, au travers de cette entreprise, ils peuvent accéder au pouvoir. D'autres ont des revendications. Au lieu de procéder, n'est-ce pas, par des voies démocratiques qui existent et qui sont ouvertes, ils prennent les armes contre leur nation et après, il n'y a pas une justice, n'est-ce pas, pour les réprimer. Et au finish, c'est tout un cycle qui revient et qui revient encore. Alors, je parlais également de l'économie, n'est-ce pas, de notre pays qui est extraverti. Et on ne sent pas vraiment, comment je vais dire, cette capacité de gouvernants congolais de pouvoir, n'est-ce pas, transformer le potentiel, de pouvoir transformer le potentiel en richesse. Non seulement le transformer en richesse, mais également à pouvoir faire en sorte que cette richesse soit partagée équitablement, n'est-ce pas, auprès de tous les Congolais. Il y a une crise, madame, qui est, je vais dire, le paroxysme. C'est la crise éthique au pays. La crise éthique. Donc aujourd'hui, la corruption dans notre pays n'est pas seulement un délit. Elle est devenue un langage social, la corruption dans notre pays. Et c'est devenu une survie, une stratégie de survie, un modèle de réussite et une méthode d'accès même au pouvoir. Donc, ça fait que le favoritisme menace le mérite. Ça fait que l'achat de conscience détruit même la citoyenneté. Et là, quand vous voyez le degré du tribalisme, n'est-ce pas, qui affaiblit la nation, donc vous comprendrez que nous sommes vraiment au bas de l'échelle, nous sommes descendus trop bas. Voilà comment je décris la crise à laquelle nous faisons face, les multiples facettes de cette crise à laquelle ou auxquelles nous faisons face.
Le manifeste de Kasangulu, quelle proposition citoyenne pour refonder la RDC? C'est le thème de l'émission. Parle aux auditeurs d'aujourd'hui. Notre standard est déjà ouvert, 081 32 34 883. Et nous avons en ligne plusieurs auditeurs qui attendent, notamment Maître Patrick Odia, Docteur Michael Bolingo, Pierre Moujanaï, Marie-Paul Awa, Victor Ndouzi. Nous commençons par Patrick Odia. Bonjour à vous et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Patrick Odia, vous êtes en ligne, vous pouvez activer votre micro et prendre la parole. Est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour.
Faites un plan des situations actuelles.
On va vous demander aussi d'éteindre votre poste récepteur afin que nous puissions bien échanger. Si Patrick Odia ne suit pas, on va passer à Dr Michael.
Je suis là, Maître Patrick Odia.
Il y a beaucoup de bruit autour de vous, Maître Patrick Odia. Veuillez éteindre ou vous éloigner de ces bruits pour prendre la parole afin que notre échange puisse bien se passer. Dites-nous d'abord, bonjour, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce manifeste de Kasangulu? Patrick Odia, vous êtes en ligne.
Oui, j'ai déjà entendu parler du manifeste de Kasangulu, je pense c'est cette semaine passée, mais de façon un peu superficielle, pas profonde également. Et moi, je salue ce genre de réflexion également parce que la paix durable, la cohésion sociale, mais aussi la gouvernance transparente dans l'RDC repose sur un ensemble de conditions interdépendantes qui soient institutionnelles, gestion responsable des ressources, dialogue inclusif, lutte contre la corruption et les droits socio-économiques. Mais il faut aller au-delà, que marquer également que leur mise en place de ces réflexions, de ce manifeste également, pourrait certer à beaucoup de défis également sécuritaires et d'autres également. Mais d'emblée, lorsque l'invité, mon confrère, a pris parole, j'avais du mal à cerner à sur quoi le manifeste s'attelait exactement. Et heureusement que vous avez posé cette question. Il a dit la situation humanitaire, la situation sécuritaire et socio-économique également. Bon, moi, je voudrais peut-être y aller par lui posant une question. Comment il entend, comment le manifeste, comment pense-t-il obtenir la mise en œuvre des réflexions issues du manifeste des Kasangoulou? Dès lors qu'on sait qu'en République démocratique du Congo, nous faisons face à un défi majeur, notamment les décideurs n'ont pas la culture de lire, de consulter, d'écouter et d'être orientés, par exemple. Ils prennent des décisions monte proprio sans consulter parfois certains éclaireurs, notamment les doctrines, notamment certaines réflexions scientifiques ou intellectuelles ou de sa société civile, même du peuple, bien entendu également. Vous ne pouvez que voir la fameuse taxe sur les numériques et tout ce qui va avec. Moi, je voudrais juste savoir d'abord comment ils pensent d'abord obtenir la mise en place ou l'exécution, même à 80%, 90% des dites résolutions également. Mais ça, c'est la question. Mais pour un peu essayer de revenir aussi à la thématique également, je voudrais apporter mon soutien à cette réflexion, à ces réflexions, je vais dire également, mais tout en pensant également qu'il ne s'agit pas de se concentrer à 3, 4, 5 crises à la fois, sinon ça sera un peu de la force éparse. Et il faudrait se focaliser peut-être sur une crise principale qui pourra avoir de l'incidence sur beaucoup plus d'autres secteurs également de la vie. Au lieu d'embrinder 8, 5, 6, 7, j'ai essayé de scripter ça, mais j'ai trouvé que c'était un peu de trop. Et ça, c'est une suggestion également. Mais s'agissant de la corruption ou de la bonne gouvernance, parce que moi, j'estime que la bonne gouvernance, c'est le carrefour, je vais dire comme ça, de toutes les crises que nous avons connues, que ce soit les crises sécuritaires, les crises économico-sociales, les crises, éducationnelles même, tout ça, mais la bonne gouvernance est au centre et au carrefour de toutes ces crises également. Quelles sont les propositions concrètes à mi-parcours, je vais dire, à moyen terme, à long terme et à terme court, que les manifestes pensent mettre en place pour organiser, pour favoriser ou pour militer la bonne gouvernance, instaurer la bonne gouvernance. Voilà un peu, je voudrais être plus apprenant aujourd'hui en suivant par exemple leurs recommandations, de façon concrète, pas des théories, de façon pratique, cher maître. Merci.
Merci beaucoup à Maître Patrick Odia et nous allons accueillir à Kinshasa Dr Michael Bodingo. Bonjour. Dr Michael, vous êtes déjà en direct. Prenez la parole. Oui. Quelle est votre contribution à cette émission, à ce débat, Dr Michael Bodingo? On vous suit.
Je suis là. Vous m'écoutez?
On vous écoute.
Ok, merci beaucoup. Je salue la pertinence de notre camarade qui est au studio. C'est quelque chose qu'on doit encourager. De telles initiatives sont tellement bonnes. Mais une chose que nous devons aussi dire, c'est quoi? Tout ce qu'il a dit, ce sont les vraies causes qui rongent notre gouvernance en RDC. Parce que ce sont des recommandations qu'on a y a données et qui, malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais gain de cause. Alors, ma question que je voulais demander à notre invité, surtout moi, j'insiste au niveau de l'éthique au niveau de la gouvernance, quelles sont les stratégies qu'ils ont mis en pratique pour que quand même l'homme congolais qui est dans l'administration, qui est dans la gestion du pays, puisse changer sa façon de travailler? Parce qu'à dire vrai, si aujourd'hui le pays est mal, est en difficulté aujourd'hui, c'est à cause de la mauvaise gouvernance, comme venait de le dire mon prédécesseur. C'est un souci très majeur sur lequel nous devons tous travailler. Parce que si vous regardez bien aujourd'hui, l'homme congolais pendant les élections, il est tellement doux. Une fois au pouvoir, les griffes commencent à pousser. Maintenant, on se demande comment s'y prendre. Comment cet homme qu'on a vu avec des chapelets de bonnes intentions, il commence à changer aujourd'hui parce qu'il est au pouvoir. Si vous regardez aujourd'hui la question de l'Est, parce que c'est là où moi je voulais toucher. Nous avions plusieurs fois toutes les organisations de la société civile, nous les acteurs des analystes indépendants en politique, donc les ONG, nous avions dit au président de la République et son gouvernement, s'il vous plaît, aidez-nous à faire un dialogue. C'est pas un dialogue avec les Rwandais ou avec qui que ce soit, mais dialoguer ne fût-ce qu'avec les Congolais que vous supposez être dans la rébellion. Aujourd'hui, parce que les gens viennent de mourir autant d'années, il y a aussi l'épidémie qui vient d'arriver. C'est maintenant qu'ils veulent accepter le dialogue. Après tout, donc toutes ces pertes de vie. Donc, vous comprenez que l'homme congolais change son comportement, c'est lui qui doit pouvoir. Alors, en tout cas, je voulais que notre invité puisse nous expliquer un peu, parce que moi, là où je voulais insister, c'est sur l'éthique de l'homme congolais. Qu'est-ce qu'il pense faire? Voilà un peu ce que j'avais comme contribution. Mais toutefois, nous les remercions pour le courage, la bravoure, et qu'ils puissent continuer aussi des sensibilisations afin que les messages puissent passer. Mmh. Voilà, je dis remercie.
Merci beaucoup, docteur Michael Bolingo, à Lubumbashi. Nous rejoignons Pierre Mujanaï. Bonjour.
Bonjour, madame. Bonjour, Radio Capi.
Oui. À vous la parole, Pierre Mujanaï.
Merci beaucoup, madame. Merci à notre invité du jour pour son intervention. Nous comprenons qu'à la lecture du thème, il ressort que les manifestes de Kasangoulou se présentent comme une initiative citoyenne qui part d'un constat largement partagé. La RDC fait face à plusieurs défis. Nous savons plusieurs défis auxquels nous faisons face, la sécurité, le chômage de gêne, ainsi que la discrimination, surtout quand il s'agit d'emploi et consorts. Vous savez, les jeunes, ils vous souffrent beaucoup. Aujourd'hui, on veut engager, embaucher. On vous dit qu'il faut avoir un peu de l'expérience. La RDC fait face à des défis à l'Est, il y a la guerre et ainsi de suite. Alors, je voulais demander à notre intervenant, soit à notre invité, de multiplier les plaidoyers afin que la bonne gouvernance soit à sa place, parce que une fois que le pays est bien géré, une fois qu'il y a une bonne gouvernance, toutes les activités peuvent bien marcher et les Congolais peuvent se sentir à l'aise. Alors, une question me vient à l'esprit. Les manifestes présentent plusieurs propositions de réforme. Parmi celles-ci, lesquelles considérez-vous comme prioritaires pour répondre aux défis actuels de la RDC, surtout que notre pays fait face à plusieurs difficultés, soit surtout des soucis sécuritaires et sanitaires. C'est un peu ça, mon intervention.
Merci beaucoup, Patrick Mujanaï, depuis Lubumbashi, à Kisangani.
Pierre Mujanaï,
excusez-moi, parce qu'il y a Patrick Odia qui avait pris la parole avant vous. Donc, on va rejoindre Marie-Paul Awa, qui nous appelle de Kisangani. Bonjour. Marie-Paul Awa, vous êtes en ligne. Est-ce que vous nous entendez?
Oui. Oui, je vous attends. Bonjour, madame. Bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi. Madame, le moins que l'on puisse dire à ce niveau de débat, c'est que la beauté des systèmes démocratiques, aussi bien de la sociologie politique, c'est à travers tout ce que nous sommes en train d'analyser ici, tout ce que votre invité a présenté en bonne et due forme. Vous savez, madame, la socialisation dans la sociologie politique, on verse qu'il y a une socialisation de la population, c'est-à-dire la population, les gouvernés doivent participer dans la gestion du pays. Et exactement, le manifeste de Kasangoulou vient certainement mettre un jalon par rapport à cette dimension. Ce qu'on peut aussi se dire, c'est que, en tout cas, au-delà des partis politiques qui exercent les mêmes compétences que les manifestes et aux sociétés civiles, les problèmes pour la RDC ne doit pas absolument être compris dans cette dimension des choses. C'est-à-dire que il faut multiplier les organisations, multiplier des rencontres. Je pense que si et seulement si on se met dans les ratios de ce que nous vivons dans les pays, la multiplication des organisations des sociétés civiles n'est pas absolument le problème pour résoudre tous les problèmes que nous avons en RDC. Mais ce qu'il faut pour ces pays, au-delà des bonnes idées développées par votre invité, aussi bien avec toutes les autres intelligences des partis politiques et aussi bien des sociétés civiles, parce que c'est le même combat. J'ai entendu Maître Patrick Odia, j'ai entendu même le docteur Boulingolaki, avec eux, nous ne cessons de demander, de tirer la sonnette d'alarme par rapport à tous les méandres que nous avons dans notre pays. Mais les problèmes, pourquoi les choses ne marchent pas? Les choses ne marchent pas parce qu'il n'y a pas la volonté politique. Exact. C'est par là que je vais insister. Bien évidemment, nous pouvons absolument, les idées sont bonnes, ce sont des intelligences qui se sont réunies pour produire ces éléments, et ce que nous pouvons appeler comme une feuille de route, mais le fait qu'il n'y a pas la volonté politique, on peut bien, dans cet état-là, on peut bien beau avoir des idées, multiplier des réflexions, mais cela ne va pas aboutir. Voilà pourquoi nous avons toujours insisté, madame, ce n'est pas pour rien. Nous avons une petite expérience en matière de gouvernance. Nous insistons sur ces éléments des gouvernants par rapport à leur éthique, par rapport à leur déontologie, par rapport à leur volonté politique, c'est parce que c'est ce qui constitue la clé de voûte pour le développement. Vous savez, aujourd'hui, la crise que nous avons tous azimuts dans tous les coins, même, il y a même des crises qui sont inter-individuelles. Pourquoi toutes ces crises-là? D'aucuns ne se posent cette question. Parce qu'aujourd'hui, parce que les gens qui sont au pouvoir, parce qu'ils sont dans les mangeoires, ils répartissent l'argent, ils ont leurs familles à l'extérieur, et ils laissent les gens comme ça. C'est un grand défi que nous avons dans notre pays. Et pour résoudre ces problèmes, moi j'ai toujours souhaité qu'il y ait d'abord, bien évidemment, l'établissement de l'autorité de l'État, et avec l'établissement de l'autorité de l'État, qui est aussi la justice distributive. Vous savez, dans la sociologie des conflits, pourquoi les gens vont en guerre? Les gens vont en guerre parce qu'ils ne se retrouvent pas. Nous avons parmi ces problèmes qui poussent les Congolais à entrer dans des crises. Et d'ailleurs, j'ai développé dans vos antennes une théorie. L'émergence, c'est par la violence. Nous avons d'ailleurs, votre invité a dit, les gens ont compris que la manière pour gagner sa vie en RDC, c'est aller s'enrôler dans un groupe armé, aller dans la crise et qu'il aura un dialogue. Et tout cela, les seigneurs de guerre deviennent automatiquement des gouvernants. Ça, c'est la prime, bien évidemment, à ceux qui versent les sangs, à ceux qui tuent. Mais si nous étions dans un pays sérieux et que tous les seigneurs de guerre, ils sont nombreux là-bas, madame, je vous dis, ils sont nombreux à Kinshasa, qui continuent même à diriger. Mais si nous étions dans un état où les gens sont sérieux, on devrait mettre en place un tribunal pour tranquer tous ceux-là qui ont versé les sangs, tous ceux qui ont manqué des guerres. Mais lorsqu'on voit des gens qui ont tué, des gens qui ont fait devenir des ministres, devenir des ADG, tout ça, qu'est-ce que vous allez conseiller aux autres? C'est parmi des problèmes que nous avons. Et il faudrait que cela soit vraiment notre cheval de bataille pour que nous puissions lutter contre cette propension de penser que la vie, on gagne sa vie à partir de la création des groupes armés. Il y a même ceux-là qui sont des gouvernants, mais qui ont des groupes armés. Ils sont quiets. Ils ne sont même pas brutalisés par l'État et ils sont là, ils sont en train de nourrir ces groupes armés. C'est parmi des problèmes. Et il faudrait, dans ces pays aussi, créer des opportunités d'emploi. Tous les gens qui sont en train de trimballer de gauche à droite, parce qu'ils n'ont rien à faire. Vous savez, quand quelqu'un n'a rien à faire, il va mûrir des idées pour nuire à l'État. Et à ce moment-là, du point de vue des gouvernants, ça pose problème. Voilà, et au-delà de tout ce que les amis ont dit, et voilà ce que je pouvais ajouter, justement pour la beauté. Bien évidemment, je suis j'ai aimé beaucoup d'idées développées par ces manifestes. C'est un diagnostic qui entre dans nos préoccupations, merci, qui entre dans tout ce que nous nécessaire de dire. Merci beaucoup, madame.
Merci beaucoup, Marie-Paul Awa à Mbanzangungu. Nous attendons Victor Ndouzi. Bonjour.
Bonjour Maman Moussaou, bonjour à toute votre vaillante équipe à la radio.
Merci.
Et bonjour à tous les auditeurs et surtout les auditrices, merci. Voilà, le débat c'est vraiment un débat très important. Le tableau que l'invité vient de peindre, c'est le tableau qui malheureusement condamne notre gouvernement. Excusez-moi de le dire comme ça, si on était en justice, le tableau qu'il a peint là, ce sont les maux dont souffre même le gouvernement actuel. Donc, on ne doit pas seulement accuser ceux-là qui ont pris les armes. Et d'ailleurs, au sein du gouvernement, il y a des gens qui avaient pris les armes, qui sont là. Je ne sais pas comment ils peuvent condamner tout ceci. Mais ce que je voulais dire, c'est que le manifeste, j'ai essayé un peu de feuilleter, enfin de lire un peu, d'avoir des informations. Mm-hmm. Le manifeste parle, par exemple, par rapport à la révision constitutionnelle et tout ce qui peut s'en suivre, le manifeste parle d'un large consensus par rapport aux dispositions verrouillées. Il pourra nous expliquer quand j'aurai fini, enfin, quand il prendra la parole, de quel consensus il veut parler. Parce que c'est défini déjà dans la Constitution. Et malheureusement, le manifeste nous laisse perplexes. Un consensus. On va débattre quoi? Alors que les choses sont déjà claires dans la Constitution par rapport aux articles verrouillés. C'est comme si le manifeste avait peur de dire, ben écoute, comme il y a déjà ces débats, allons-y. Non. Les choses sont claires, mais le manifeste là est resté, je ne sais pas comment il faut les dire. Et quand il parle aussi, dans le même manifeste, il est en train de parler d'une citoyenneté active. Dans le manifeste, on en parle, hein, la citoyenneté active, exact. Ou dans les débats qu'ils ont fait de l'autre côté. Alors, la citoyenneté active. Moi, je suis paysan, je suis villageois. J'ai eu seulement la chance, en tant qu'activiste des droits sociaux et économiques, d'aller un peu dans beaucoup de milieux, beaucoup de pays. Et même d'être primé comme lauréat du gouvernement congolais par rapport à la lutte contre la corruption et le développement. Je suis lauréat de l'Observatoire d'éthique professionnelle. Mais vous savez ce que je vis? Parce que je dénonce le viol sur mineurs. Je dénonce un centre de recherche qui est à côté, qui dévaste la forêt parce que certains individus sont égoïstes. Je dénonce quelques médecins qui, par défaut de médical, on conduit déjà deux personnes à la mort.
On vous encourage en tout cas, Victor Nzouzi, mais si on peut revenir à notre sujet d'aujourd'hui. Vous avez parlé...
Je suis dans le sujet. Ok, je laisse ces exemples.
Oui, okay. Allez-y. Alors, droit au but pour permettre à d'autres personnes qui attendent aussi. Hein.
Ok, madame. Quand il parle d'une citoyenneté active, dans notre pays, quand vous dénoncez, vous devenez l'ennemi juré. Alors, la citoyenneté active, comme disaient les autres amis qui ont précédé, concrètement, ça se passera comment? Concrètement, comment va se passer ce large consensus dont il parle? Donc, voilà un peu, c'est des choses claires dont on doit parler. Et pour la justice, par exemple, on veut bien faire les choses, on veut qu'on se mette d'accord dans ces pays. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je repose la question, je l'ai posée la fois passée. Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ont commis des crises contre l'humanité qui sont imprescriptibles? Lui, qu'est-ce qu'il prévoit? Pour ceux-là, on va les laisser, on ne les poursuivra jamais, même nos petits-fils ne vont pas les poursuivre, ou bien on fait quoi? Voilà, je m'arrête là.
Merci
il faut
beaucoup.
Qu'il soit clair, vraiment clair. Et même dire qui avait financé leur congrès là.
Très bien.
Qui avait financé ces congrès. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Victor Nzouzi. Adjoku Robert est à Bounia. Bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Oui. Adjoku, vous avez...
Radio de la paix, de l'unité, de cohésion nationale.
Merci.
Radio de développement, le souffle du Congo. Je suis très, très heureux, très content de ce sujet. Hommage à l'invité, à toute l'équipe qui a initié cette émission, disons cette analyse très très profonde de la situation de notre pays. Tenez, comme je l'ai dit toujours, le bon Dieu a fixé les principes de la gestion de la chose publique. C'est-à-dire, tout gouvernement a la mission d'amener la nation à l'autosuffisance et à la puissance. Raison pour laquelle les politologues admettent que, et même la parole de Dieu admet que, ceux qui assument les fonctions politiques et administratives doivent être prises de grandes valeurs morales, spirituelles et intellectuelles. Raison pour laquelle, vraiment, nous saluons toutes ces profondes analyses. Et nous félicitons aussi tous les intervenants, leurs analyses sont profondes aussi. Je crois qu'il ne faut pas Il faut vraiment féliciter ce travail qui a été fait. Comme vous le savez, la situation que nous analysons date de très longtemps, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Donc, que les tenants du pouvoir ne considèrent pas toutes les analyses comme si on s'attaquait à eux. D'ailleurs, je rends hommage au chef de l'État qui a l'habitude de dire les choses ouvertement. Donc, je me raconte que nous avions raison depuis les années 1982 de nous faire appeler des Tshisekedistes. Vraiment, il est en train de transmettre la vision de notre très cher papa.
Merci.
Donc, c'est ça la vérité. Nous devons analyser la situation dans les moindres détails.
Est-ce qu'on peut revenir comme vous sur le savez, manifeste de Kasangulu, Adioku Robert? Il y a plusieurs propositions dans ce manifeste. Dites-nous, par exemple, laquelle vous paraît la plus urgente pour qu'on reste dans le sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'il est là avec nous? Malheureusement, il n'est plus avec nous. On va finir cette série de questions avec il y a deux auditeurs qui attendent encore. Sylvain Aguenoro, je crois que j'ai bien lu son nom, qui est à Magui, il va me corriger si j'ai pas bien lu. Et Félix Moulumba à Kananga. Sylvain Aguenoro, bonjour.
Oui, madame Onde, bonjour.
Alors, est-ce que vous avez entendu parler de ce manifeste, monsieur Aguenoro?
Je commence d'abord par ne pas vous tenir trop rigueur, puisque mon nom est très compliqué. On m'appelle Sylvain Aguenoro Ouronia.
Ok.
À des universités, chercheur sur les questions de la sécurité à l'est du pays. Et c'est d'ailleurs, puisqu'on est en train de préparer à lancer un rapport, c'est tout ce qui se passe à l'est du pays, l'Ituri, le Nord, le Sud Kivu, qu'on m'a donné, vous m'avez senti silencieux sur les chaînes de Radio Capi, et spécialement notre émission par aux auditeurs. Merci pour avoir encore associé aujourd'hui à ce sujet de débat. Qu'est-ce que je veux dire? Avant même que je réponde à votre question sur ces manifestes de Kasangulu, qui pour moi d'ailleurs n'est pas trop différent des manifestes de la CELE, tout comme aussi de ce dialogue inter-congolais de l'Afrique du Sud, puisque quand on voit les contenus, c'est presque la même chose. Ce sont des questions récurrentes qui reviennent chaque jour. Mais je voudrais commencer par M. Adjoukou. Je pense que dans cette émission, nous devons éviter des propos propagandistes.
Exactement.
Je pense que ce n'est pas l'objet de notre émission. Mm-hmm. Je suis l'un de ceux qui ont participé dans cette émission depuis sa création jusqu'à ce jour. Je sais de quoi je parle. Alors, il me semble que nous avons déchiré la constitution de la République démocratique du Congo. Je regrette de l'avoir dit, mais lorsque nous voyons depuis les indépendances de ces pays jusqu'à ce jour, Madame Pondé, qu'est-ce qui choque les intentions des Congolais? Le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre entre les besoins profonds des Congolais et la manière de gouverner. J'ai toujours dit, je ne suis contre aucun dirigeant, je ne suis contre aussi personne, mais lorsque je mène mes analyses comme enseignant, comme acteur sociopolitique, il me semble que, différemment des autres pays, j'ai eu la chance de voir juste dans d'autres pays du monde, lorsque les dirigeants respectent les prescrits de la Constitution, eh bien, les institutions politiques sont dynamiques et répondent aux besoins des citoyens. C'est d'ailleurs le point 4 du manifeste de Kasangulu, si ma tablette me montre ce document d'une bonne manière, puisque ce manifeste révèle la question des institutions, ou même pas de la Constitution, d'aider Madame Pondé, même tous les auteurs qui m'attendent, auditrices aussi, la question de la sécurité et de la paix, quand vous regardez notre constitution, même si aujourd'hui on a fait un débat qu'il faut la revoir ou il faut la changer totalement, mais il y a plus de 10 articles de la constitution qui donnent le pouvoir aux institutions de la République, à commencer par l'institution président, l'institution gouvernement, et même l'Assemblée nationale, les prérogatives de maintenir la paix et la sécurité sur l'Assemblée de la République. Pourquoi on n'y arrive pas? Je prends la question de gouvernance où l'économie et la société. Tout ce que la RDC regorge comme ressources économiques, des biens économiques, comment est-ce que, d'ici là, nous aurons 100 ans de l'indépendance de ces pays, comment est-ce que le gouvernement n'arrive pas à les redistribuer entre les Congolais? J'ai entendu mon ami Marie-Paul Awa, que je salue à part de Kisangani, revenir sur cette question, qui d'ailleurs, des fois, pousse les autres Congolais à prendre les armes. C'est le cas de l'AFC. Tout le monde sait que l'AFC a pris les armes, puisque peut-être des mines ont été ravies à certains animateurs, qui hier étaient peut-être des partenaires privilégiés des uns des autres. Je n'entre pas dans ces débats. Mais le problème, c'est que Madame Poundé, je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Je voudrais dire quelque chose. Merci. Quand même pour interpeller nos consciences. Excusez-moi, je voudrais dire quelque chose à 30 secondes. Le problème, c'est que nous avons détruit l'âme du Congo. Nous nous comportons comme des antipatriotes, comme si nous avons déjà légué le Congo aux d'autres citoyens de ces pays et que nous nous comportons comme des étrangers à la République. Et j'ai fini par interpeller les Congolais. J'ai dit bien, d'ici 24 ans, nous aurons 100 ans de la souveraineté de ces pays. Le Congo aura 100 ans. Qu'est-ce que nous léguerons comme héritage à la génération actuelle et future que nous-mêmes sommes en train de mettre au monde? Je m'arrête là.
Merci beaucoup, monsieur Sylvain Hagenroth. Je crois que cette fois-ci, j'ai bien prononcé votre nom. Vous êtes à Mahagui et on va finir cette série de questions avec Félix Moulumba qui nous appelle de Kananga. Bonjour.
Bonjour, bonjour madame, je suis Moussan Pondé. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Alors, je pense que le manifeste de Kasangoulou a le mérite de replacer les citoyens au centre de la réflexion sur l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Après plusieurs décennies de crises sécuritaires, politiques et sociales, vous le savez, beaucoup de Congolais attendent non seulement un changement de dirigeant, mais surtout une formation et aussi une transformation du mode de gouvernance et du fonctionnement de l'État. Cependant, j'aimerais savoir en quoi ce manifeste se distingue concrètement de nombreuses déclarations, résolutions, effets et déroutes déjà produites dans notre pays. Quelles sont les majeures prioritaires réalisables à court terme qui pourraient, n'est-ce pas, améliorer directement la vie des populations, notamment dans les provinces confrontées à la pauvreté, au chômage des jeunes, mais pourquoi pas à l'insécurité? Alors, à l'heure où l'on parle de dialogue national inclusif, le manifeste propose-t-il un mécanisme de précis de suivi et de mise en œuvre des réformes afin d'éviter que les recommandations ne restent théoriques? Parce que normalement, il faut qu'on soit dans la pratique et non dans la théorie. Est-ce que le manifeste s'intéresse en tout cas à cela? Et quelle place est réservée aux citoyens ordinaires, aux femmes, aux jeunes, aux universitaires et aux communautés locales dans ce processus de refondation? C'est au manifeste de nous le dire. Et enfin, je me fais demander à Maître Patient Bachombe, quelle garantie institutionnelle le manifeste de Kasangoulou envisage-t-il pour lutter efficacement contre la corruption, renforcer l'indépendance de la justice et assurer une gestion transparente des ressources naturelles qui constitue, selon beaucoup, l'un des principaux enjeux du redressement de la République démocratique du Congo. Merci.
Merci beaucoup à Félix Moulumba. J'allais oublier un auditeur, un tout dernier, en tout cas Kanga Lobola, pour boucler cette série et permettre à notre invité de répondre. Kanga Lobola, activez votre micro et prenez la parole si vous nous suivez. Bonjour.
Bonjour, madame.
Ok, on finit avec vous rapidement, Kanga Lobola, votre intervention, votre participation à notre thème d'aujourd'hui.
Ok, merci beaucoup. En tout cas, manifestation de Kasangoulou, ça me rappelle vraiment le patriotisme de nos compatriotes. Comme je vous l'avais dit lors de mon inscription à cette émission, en tout cas, ça me donne aussi le courage et la vivacité de me soutenir et que notre pays restera un et indivisible. Cette idée-là, c'est bon. Mais madame, et l'invité qui est là, vous savez, le Congo, depuis longtemps, nous étions sans le savoir que nous sommes infiltrés par ceux qui veulent nous diviser. C'est ce qui nous trahissent aujourd'hui. Même des vrais Congolais qui aiment ce pays, lorsqu'ils se sont déjà habitués à ce genre de personnes qui voulaient toujours que le Congo soit divisé, et une bonne idée est initiée, comme des manifestes de Kasangulu et d'autres manifestes aussi de l'Ancelé, si vous lisez aussi, en tout cas, rend notre pays à l'unité. Mais ces gens-là qui sont déjà initiés à s'appartenir des choses comme tout à l'heure appartenir eux-mêmes, ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas. Alors, pourquoi que je dis comme ça? Est-ce que vous savez que la RDC, le Congo à l'époque, serait divisé avant l'Éthiopie, avec le Soudan? Mais suite à notre résistance, depuis Kipavita, Kimbangu et tout ça, qui n'étaient pas sensibilisés pour résister, ils se sont révoltés et jusqu'à présent la balkanisation de ces pays ne tient pas. Aujourd'hui nous avons les Ouazalènes. Qui avait sensibilisé les Ouazalènes? Ce sont eux-mêmes. Nous avons un sang patriotique. Un sang patriotique. Mmh. Ce sont les gouvernants qui nous trahissent. Comme notre compatriote le précédent a souligné. Ce sont les gouvernants. Les gouvernants qui sont là, ils prennent la gouvernance d'un si grand pays comme si ils gouvernent la famille. Même un père de famille ne peut pas diriger sa famille comme ça.
Kangalobola, merci en tout cas. Nous retenons de votre intervention qu'il faut plus s'atteler sur la cohésion nationale et aussi sur la bonne gouvernance. Merci à vous tous, hein, chers auditeurs, pour vos interventions et vos questions. On va permettre à notre invité de répondre à toutes vos questions. Je rappelle qu'on parle du manifeste de Kasangulu. Quelle proposition citoyenne pour refonder la RDC? Nous sommes avec Maître Patient Bashombe Matabichi, président du bloc RDC, organisation porteuse de ce manifeste. Alors Maître Patient Bashombe, comment vous réagissez à ces interventions de nos auditeurs? Allez, vous avez le temps de noter.
Oui, je tiens d'abord à remercier tous les intervenants, en tout cas avec des questions et des interventions pertinentes. Mmh. Il y en a même qui n'ont pas posé de questions, mais qui ont contribué.
Juste contribué.
Et je voudrais dire, c'est ça aussi la beauté, parce que quelqu'un a parlé du patriotisme, l'amour de la nation. Mmh. Chacun contribue, et c'est ce que nous voulons. Mmh. Si nous avons mis en place ce bloc RDC, c'est tout simplement demander aux compatriotes qui ne se retrouvent ni dans l'opposition ni dans la majorité. Donc c'est pas des gens qui viennent avec des idées préconçues, mais des gens qui aiment le pays et qui n'acceptent pas, n'est-ce pas, la prédation, les systèmes de prédation actuels, et qui sont également contre cette agression contre notre pays, ces Congolais qui ont décidé de trahir la nation, mais qui se trouvent, comment je vais les appeler, des vrais propriétaires du Congo. Mmh. Donc, les propriétaires du Congo, c'est un sursaut patriotique que nous sommes en train de lancer aujourd'hui. Et quelqu'un a posé la question, je remercie Patrick Odia, je remercie monsieur
Michael Bolingo, il y a eu Pierre Moujanaï, Marie-Paul Awa,
voilà, Marie-Paul Victor Awaya, Zouzi, Victor Zouzi, Robert de Bounia, Sylvain et Félix et Mouloum, et ainsi que Kanga.
Bon,
je ne saurais pas vraiment lire chacun.
Mais comment obtenir, si d'abord, pour commencer par la question de Patrick Odia, comment obtenir la mise en œuvre des résolutions de ce manifeste de Kasangulu? Est-ce qu'il ne faut pas se focaliser sur une crise, de manière à ce que cette résolution puisse avoir aussi de l'impact sur les autres secteurs? Alors, notamment, il a parlé de la bonne gouvernance, et les autres intervenants sont revenus également sur la bonne gouvernance.
Je suis tout à fait d'accord, mais je voudrais quand même apporter quelques petites précisions, détails d'ailleurs, que la société civile ne peut pas prétendre se substituer aux institutions de la République. Et donc, nous, nous avons tout simplement notre rôle historique, c'est lui, n'est-ce pas, de conscientiser, de conscience morale. Donc, une force de veille. Et c'est pourquoi nous parlons même des contrôles démocratiques et d'une mobilisation citoyenne. Et je voudrais quand même qu'on comprenne que ce manifeste n'est pas un programme de parti. Il n'est pas une candidature, ni une manœuvre de pouvoir. Non. Nous, nous sommes un courant vraiment de pensée, un courant idéologique de tous les Congolais qui pensent de cette manière qu'il faut nous doter d'une vision de nous, la communauté congolaise, de nous, les Congolais, sans parti pris politique. Et ici, nous décrivons ce que nous refusons dans ce pays. Nous décrivons, n'est-ce pas, ce que nous voulons dans ce pays et ce à quoi, n'est-ce pas, ce que nous nous engageons, n'est-ce pas, à défendre dans ce pays. Et je crois qu'il a aussi posé la question de savoir rapidement qu'est-ce que on peut faire le plus rapidement.
À court et à moyen terme.
Ouais, à court et à moyen terme. Et donc, je voudrais lui dire que ce manifeste n'est pas destiné qu'aux dirigeants. Non, ce manifeste est d'abord, s'adresse d'abord aux citoyens congolais. Il s'adresse aux élus, aux magistrats, aux militaires, aux policiers, aux chefs coutumiers, aux confessions religieuses, aux médias, aux entrepreneurs, aux partenaires, n'est-ce pas, internationaux, même à notre diaspora. Et aussi, évidemment, aux gouvernants de notre pays. Donc, ce n'est pas seulement une catégorie de gens qui doivent le faire. C'est un sursaut patriotique que nous voulons lancer, que chaque Congolais comprenne quelle est sa responsabilité.
On va quand même répondre à la question de Victor Nzouzi.
Moi, je voudrais répondre d'abord à cette question. Qu'est-ce qui doit être fait maintenant,
urgemment,
à moyen terme et à court terme. Donc, nous avons pensé que chaque Congolais, urgemment, peut refuser d'exiger, n'est-ce pas, un pot de vin. Chaque Congolais,
lutter contre la corruption.
Voilà, chaque parent peut aujourd'hui parler du patriotisme à ses enfants le soir, en famille. Il doit aussi parler de la justice, de la vérité aux enfants. Et chaque étudiant peut aussi créer un club citoyen pour commencer à discuter. Par exemple,
là, c'est pour encourager la citoyenneté active, comme le disait Victor Nzouzi.
Alors, Victor a dit effectivement que des fois, quand on dénonce, on devient la cible. Oui, c'est tout à fait normal. Mais c'est pourquoi nous voulons devenir un grand nombre. Nous voulons devenir 5, 10 millions, 20 millions, 50 millions de Congolais qui croient et qui agissent. Si c'est une seule personne, il peut avoir des problèmes. Mais lorsque nous sommes une masse critique, nous pouvons imposer une opinion même aux autorités au niveau du pays. Alors, il y a plusieurs questions qui ont été données comme ça. Je voudrais aussi dire, parce qu'il y a le docteur.
Malheureusement, on peut plus répondre aux questions des auditeurs parce qu'il est c'est l'heure, hein, en tout cas, du bulletin d'information sur Radio Capi. Maître Patient Bachombé, Batamichi, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions.
Je n'ai pas répondu.
Mais on va le faire peut-être en enfin avec les auditeurs qui peuvent appeler après. Pour l'instant, c'est le bulletin d'information. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir massivement participé à cette émission. Très bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.